La Terre est un corps magnétique.
Nous essayâmes et nous y arrivâmes. La Terre est un grand aimant, et la force et la direction de ses courants sont aussi déterminées par l'influence des sphères célestes, par les cycles saisonniers, par la précession des équinoxes, par les cycles cosmiques. C'est pour cela que le système des courants est changeant. Mais il doit se mouvoir comme les cheveux, qui, bien que poussant sur toute la calotte du crâne, semblent naître en spirale d'un point placé sur la nuque, là où justement ils sont le plus rebelles au peigne. Ce point identifié, la station la plus puissante placée sur ce point, on pourrait dominer, diriger, commander tous les flux telluriques de la planète. Les Templiers avaient compris que le secret ne consistait pas seulement à avoir la carte globale du monde, mais à connaître le point critique, l'omphalos, l'ombilicus telluris, le centre du monde, l'origine du commandement. Toute la fabulation alchimique, la descente chtonienne de l'œuvre au noir, la décharge électrique de l'œuvre au blanc, n'était que symbole, transparent pour les initiés, de cette auscultation centenaire dont l'opération finale aurait dû être l'œuvre au rouge, la connaissance globale, la domination fulgurante du système planétaire des courants. Le secret, le vrai secret alchimique et templier, était dans l'identification de la source de ce rythme intérieur, doux, terrible et régulier, tel la palpitation du serpent Kundali, encore inconnu dans nombre de ses aspects, mais certes réglé comme une horloge de l'unique, véritable pierre qui jamais fut tombée en exil du ciel, la Grande Mère Terre. C'est là, d'autre part, ce que voulait comprendre Philippe le Bel. D'où l'insistance pleine de malice des inquisiteurs sur le mystérieux baiser in posteriori parte spine dorsi. Il voulait le secret de Kundali. Il s'agissait bien de sodomie.
« Tout est parfait, disait Diotalevi. Mais quand ensuite vous avez dirigé les courants telluriques, qu'est-ce que vous en faites? Des ronds de fumée ?»«
Allons, allons, disais-je, vous ne saisissez pas le sens de la découverte ?» Fixer dans l'ombilique tellurique l'affiche la plus puissante. Posséder cette station vous permet de prévoir les pluies et la sécheresse, de déchaîner des ouragans, des raz-de-marée, des tremblements de terre, de fendre les continents, de faire sombrer les îles. L'Atlantide a certainement disparu à la suite d'une expérimentation inconsidérée. De faire s'élever les forêts et les montagnes, vous vous rendez compte? C'est autre chose que la bombe atomique, qui esquinte aussi celui qui la tire. De votre tour de commandement, vous téléphonez, que sais-je moi, au président des États-Unis et vous lui dites « D'ici demain, je veux un fantastillon de dollars ou bien l'indépendance de l'Amérique latine, ou les Hawaï, ou la destruction de tes réserves nucléaires, sinon... Le plan de clivage de la Californie s'ouvre définitivement et Las Vegas devient un tripot flottant. Mais Las Vegas est dans le Nevada. Et qu'importe, en contrôlant les courants telluriques, vous détachez même le Nevada, même le Colorado. Et puis vous téléphonez au Soviet suprême et vous leur dites « Mes amis, d'ici lundi, je veux tout le caviar de la Volga et la Sibérie pour y faire un magasin de surgelés. Autrement, je vous ravale l'Oural. » Je vous fais déborder la Caspienne, je vous envoie la Lituanie et l'Estonie à la dérive, et je vous les fais sombrer dans la fosse des Philippines. C'est vrai, dit Diotalevi, un pouvoir immense. Réécrire la Terre comme la Torah, déplacer le Japon dans le golfe de Panama. Panique à Wall Street. Autre chose que le bouclier spatial, autre chose que de changer les métaux en or. Vous dirigez la bonne décharge où il faut, vous mettez en orgasme les entrailles de la Terre, vous lui faites faire en 10 secondes ce qu'elle a fait en des milliards d'années, et toute la roue se transforme pour vous en un gisement de diamants. Eliphas Lévi disait que la connaissance des marées fluidiques et des courants universels représente le secret de l'omnipotence humaine.
« Il en va sûrement ainsi, disait Belbo. C'est comme transformer la Terre entière en une chambre orgonique. De toute évidence, Reich était certainement un templier.
Ils l'étaient tous, sauf nous. Heureusement, on s'en est rendu compte à présent, on les prend de vitesse. »
En effet, qu'est-ce qui avait arrêté les Templiers une fois le secret saisi? Ils auraient dû l'exploiter. Mais entre le savoir et le savoir-faire, il y a loin. Pour l'instant, instruits par les diaboliques Saint-Bernard, les Templiers avaient remplacé les menhirs, pauvres fiches celtiques, par les cathédrales gothiques. Bien plus sensibles et puissantes, creusées de cryptes souterraines habitées par les Vierges Noires, en contact direct avec les couches radioactives, et ils avaient recouvert l'Europe d'un réseau de stations émettrices-réceptrices qui se communiquaient réciproquement les puissances et les directions des fluides, les humeurs et les tensions des courants. Moi, je vous dis qu'ils ont repéré les mines d'argent dans le Nouveau Monde.
Ils ont provoqué des éruptions. Puis, en contrôlant le courant du golfe, ils ont fait s'écouler les minerais sur les côtes portugaises. Tomar était le centre de tri. La forêt d'Orient, le grenier principal. Voilà l'origine de leur richesse. Mais c'était des miettes. Ils ont compris que pour exploiter à fond leur secret, ils devaient attendre un développement technologique qui demandait au moins 600 ans. Les Templiers avaient donc organisé le plan de manière que seuls leurs successeurs, au moment où ils seraient en mesure de bien se servir de ce qu'ils savaient, puissent découvrir où se trouvait l'Ombilicus Telluris. Mais comment avaient-ils distribué les fragments de la révélation aux 36 éparpillés de par le monde? Était-ce autant de parties d'un même message? Mais faut-il un message aussi complexe pour dire que l'Ombilicus est, mettons, à Baden-Baden, à Kogolin, à Chattanooga? Une carte géographique? Mais une carte présente un signe sur le point de l'Ombilicus. Et qui a dans ses mains le fragment marqué d'un signe sait déjà tout et n'a pas besoin des autres fragments. Non, la chose devait être plus compliquée. Nous nous creusâmes la cervelle pendant quelques jours, jusqu'à ce que Belbo décide de recourir à Aboulafia. Et la réponse fut. Guillaume Postel meurt en 1581. Bacon est vicomte de Saint-Alban. Au conservatoire, il y a le pendule de Foucault. Le moment était venu de trouver une fonction au pendule. Je fus en mesure d'offrir en l'espace de quelques jours une solution plutôt élégante. Un diabolique nous avait proposé un texte sur le secret hermétique des cathédrales. Un jour, selon notre auteur, les constructeurs de Chartres avaient laissé un fil à plomb suspendu à une clé de voûte, et ils en avaient facilement déduit la rotation de la Terre. Voilà la raison du procès à Galilée, avait observé Diotalevi. L'Église avait subordonné en lui le Templier. Non, avait dit Belbo, les cardinaux qui avaient condamné Galilée étaient des adeptes templiers infiltrés à Rome, qui s'étaient hâtés de fermer la bouche au maudit Toscan, templier félon, qui était sur le point de tout crier sur les toits par vanité, avec 400 ans d'avance par rapport à la date de l'échéance du plan. En tout cas, cette découverte expliquait pourquoi, sous le pendule, ces maîtres maçons avaient tracé un labyrinthe, image stylisée du système des courants souterrains. Nous cherchâmes une image du labyrinthe de Chartres. Une horloge solaire, une rose des vents, un système veineux, une trace baveuse des mouvements somnolents du serpent, une carte globale des courants. Bien, mettons que les Templiers se servaient du pendule pour indiquer l'Ombilicus. Au lieu du labyrinthe, qui reste malgré tout un schéma abstrait, vous placez sur le pavement une carte du monde et vous dites, mettons, que le point désigné par le bec du pendule à une heure donnée est celui où se trouve l'Ombilicus. Mais où ? Le lieu est hors de doute, c'est Saint-Martin-des-Champs, le refuge. Oui, ergotait Belbo. Mais mettons qu'à minuit le pendule oscille le long d'un axe, je dis au hasard, Copenhagen, Cape Town. Où se trouve l'Ombilicus ? Au Danemark ou en Afrique du Sud ? Bonne observation, dis-je, mais notre diabolique raconte aussi qu'à Chartres, il y a une fissure dans un vitrail du cœur, et qu'à une heure donnée du jour, un rayon du soleil pénètre par la fissure et va toujours illuminer le même point. Toujours la même pierre du pavement. Je ne me rappelle pas quelle conclusion on en tire, mais de toute façon, il s'agit d'un grand secret. Voilà le mécanisme. Dans le cœur de Saint-Martin, il y a une fenêtre avec une écaillure à l'endroit où deux verres colorés ou des polis sont réunis par la résille de plomb. Ça a été calculé au millimètre, et probablement depuis 600 ans, il y a quelqu'un qui se donne la peine de veiller à ce que tout reste en l'état initial, au lever du soleil. D'un jour bien déterminé de l'année, qui ne peut être que l'aube du 24 juin, jour de la Saint-Jean, fête du solstice d'été. Voilà, ce jour-là, et à cette heure-là, le premier rayon du soleil qui pénètre par la fenêtre tape sur le pendule, et là où le pendule se trouve au moment où il est touché par le rayon, en ce point précis de la carte, il y a l'Ombilicus.
« Parfait, dit Belbo, mais si le temps est nuageux,
on attend l'année suivante.
Pardon, dit Belbo, la dernière rencontre est à Jérusalem. Ne serait-ce pas au sommet de la coupole de la mosquée d'Omar que devrait être accroché le pendule ?
Non, le convainquis-je. En certains points du globe, le pendule accomplit son cycle en 36 heures. Au pôle nord, il mettrait 24 heures. À l'équateur, le plan d'oscillation resterait toujours fixe. Donc, le lieu compte. Si les Templiers ont fait leur découverte à Saint-Martin, leur calcul ne vaut que pour Paris. Parce qu'en Palestine, le pendule indiquerait une courbe différente.
Et qui nous dit qu'ils ont fait la découverte à Saint-Martin ?
Le fait qu'ils ont choisi Saint-Martin comme leur refuge, que du prieur de Saint-Alban Apostel à la Convention, ils l'ont gardé sous contrôle, qu'après les premières expérimentations de Foucault, ils l'ont fait placer là-bas, y a trop d'indices.
Mais la dernière rencontre est à Jérusalem.
Eh bien, à Jérusalem, on recompose le message. Et ça n'est pas une affaire qu'on expédie en deux temps trois mouvements, après quoi on se prépare pendant une année. Et le 23 juin suivant, les six groupes au complet se rencontrent à Paris pour savoir enfin où est l'ombilicus, et puis se mettre au travail pour conquérir le monde.
Cependant, insista Belbo, il y a autre chose qui cloche à mon avis. Que la révélation finale concerne l'ombilicus, tous les 36 le savaient. On se servait déjà du pendule dans les cathédrales, ce n'est donc pas un secret. Qu'est-ce qui aurait pu empêcher Bacon ou Postel ou Foucault soi-même? Car certainement s'il a montré la turlutaine du pendule, c'est parce qu'il faisait partie de la clique lui aussi. Je disais, qu'est-ce qui aurait pu les empêcher, bon Dieu, de placer une carte du monde sur le pavement et de l'orienter selon les points cardinaux? Nous faisons fausse route.
Nous ne faisons pas fausse route, dis-je. Le message indique une chose que personne ne pouvait savoir. Quelle carte utiliser ?